Radio Okapi. À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
Plus de 120 présumés rebelles et leurs supposés collaborateurs capturés depuis juin dernier en Ituri, c'est le fruit de la mobilisation des forces de sécurité pour pacifier l'Ituri en cette période de l'état de siège, assure l'armée. Poursuite du procès Tshiebwe à Kinshasa, une audience de reconstitution a été organisée hier à Mitendi à Mangafula, site supposé être le lieu où aurait été enterré Fidel Bazana, chauffeur de Tshiebwe, dont le corps demeure introuvable. Et puis, il existe encore des groupes armés qui continuent à recruter et utiliser les enfants comme soldats dans le Nord Kivu. Révélation de l'Institut d'Aler qui travaille sur la prévention du recrutement et de l'utilisation des enfants par les forces et groupes armés. Le responsable de cette institution est notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Parlons d'abord de cette découverte macabre. Au moins 26 corps ont été retrouvés dans la forêt hier vers la partie est des localités de Luna et Kabrike en Ituri. C'est à la limite avec le Nord Kivu. Selon des sources locales, il s'agit des corps d'hommes, des femmes et des enfants amenés de force dans la brousse par des présumés ADF lors de la récente attaque contre un convoi de véhicules sur la route Luna-Komanda. À en croire les mêmes sources, ces personnes avaient été contraintes de transporter les biens pillés lors de cette attaque par les assaillants. Contacté, le délégué du gouverneur dans la région affirme avoir été informé de cette découverte sans plus de détails. Sabiti Njiamoja ajoute que des enquêtes sont menées pour déterminer les circonstances exactes de ces massacres. Pendant ce temps, 124 présumés assaillants ainsi que 78 de leurs supposés collaborateurs ont été capturés depuis juin dernier en Ituri. Selon l'armée qui livre ces chiffres, c'est le résultat de la mobilisation des forces de sécurité pour pacifier l'Ituri en cette période de l'état de siège. Ce bilan donné hier suscite déjà des réactions, des détails avec Martial Kizabiamungu.
La dernière arrestation d'un présumé milicien est intervenue le week-end dernier par les services de sécurité au quartier Kindia, ici à Bunia. Il s'agit d'un général autoproclamé et présumé chef de la milice FPK. La société civile de l'Ituri, qui salit ces cas d'arrestation, dit rester perplexe quant au résultat que ces arrestations produisent sur le terrain. Son coordonnateur dit donner l'OSA.
Cette arrestation, ça doit aller plus loin, parce que arrêter une ou deux personnes, ça n'a pas encore empêché aux groupes armés de continuer à faire leur massacre. Nous demandons aux forces de sécurité de doubler les efforts.
L'Organisation de défense des droits humains, Justice Plus, estime que toutes ces personnes bénéficient encore de la présomption d'innocence. De ce fait, elles devraient être transférées dans un délai raisonnable devant leur juge naturel pour un procès équitable. Son coordonnateur, Xavier Maki.
Tous ces présumés bénéficient de la garantie d'avoir de la présomption d'innocence et qu'ils doivent être transférés devant leur juge naturel dans les délais raisonnables.
Notons que, d'après l'armée, certains de ces présumés assaillants sont déjà mis à la disposition de la justice et d'autres sont en interrogatoire au service des renseignements militaires. Nous n'avons pas encore la réaction des autorités judiciaires sur cette question. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, les 7 groupements de la chefferie de Bouito dans le territoire de Rutshuru seront bientôt dotés d'un plan d'action sécuritaire chacun. Depuis le 3 novembre dernier, la section des affaires civiles de la MONUSCO, en collaboration avec le gouvernement provincial, organise une série de forums sur le diagnostic local de sécurité de ces entités. Bernard Nyangi nous en parle.
Dans ce forum, les autorités coutumières locales, les organisations de la société civile, les délégués du gouvernement provincial CEDFARDC, police et services de renseignement énumèrent les principaux problèmes de sécurité, paix et développement de leurs entités. Ils en dégagent les causes, conséquences et proposent des pistes et des solutions et actions à mener. Pour l'inspecteur provincial en territorial au Nord Kivu, la finalité est de doter chacun de sept groupements de Bouito d'un plan d'action sécuritaire.
Les gens de Mutanda ont fait sortir 5 problèmes prioritaires, parmi lesquels l'activisme des groupes armés, les conflits fonciers. Il y a des recommandations faites au gouvernement provincial, orientées vers le gouvernement central. Chacun pourra jouer sa part de responsabilité pour l'exécution de ces plans. Le rôle de la MONUSCO, c'est toujours le rôle de l'accompagnement. Et d'ailleurs, la MONUSCO a déjà construit le bureau de Mutanda dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État.
Cet exercice avait commencé du 3 au 5 novembre par le groupement Mutanda et Kanyabayonga. Ce mercredi, ce sont les délégués de Tongo et Bambo qui viennent de le clôturer. Après, suivront le groupement de Kiondo et Bukombo. du fait que, selon la MONUSCO, le groupement de Bichoucha, lui, avait déjà été soumis au même exercice.
Au sud Kivu voisin, dans le territoire de Fizi, le commandant du 3407e bataillon du régiment FARDC, basé à Bibokoboko, demande à tous les déplacés internes ressortissants des moyens plateaux de retourner dans leurs villages respectifs. Appel lancé hier à l'issue d'une séance de travail avec l'équipe de la mission conjointe de la MONUSCO. Retrouvons sur place à Bibokoboko, Fiston Ngoma.
Devant les suspicions qui pèsent encore entre les communautés sur la détention illégale d'armes de guerre par les uns et les autres, le commandant de FARDC veut rassurer tout le monde du rôle de l'armée dans ce contexte de crise. Le colonel Fiston Bonigaba rassure avoir déployé ses troupes à Magunga 1 et 2, au marché de jeudi de Kavumu, à Mugono, à Bivumu et à Tujenge. Tout Bibokoboko déjà encerclé, cette stratégie lui permet de faire face à l'ennemi et en même temps de stabiliser la situation à l'interne à Bibokoboko. Dans son deuxième plan, les FARDC envisage organiser des patrouilles pédestres de combat dans ces différents villages. Au cours d'une rencontre mardi avec les chefs locaux, il a exhorté les populations locales à ne pas franchir les limites au-delà de la zone sous son contrôle pour paître le bétail. En attendant les patrouilles de FARDC, mardi les troupes de FARDC ont réussi à récupérer 20 vaches sur 22 emportées par les Maïmaï à Mugono. Au regard des alertes qui fusent de partout dans la région, les FARDC souhaitent que les détachements statiques de combat de la MONUSCO déployés ici à Bibokoboko restent encore pour 2 ou 3 mois. Question de rassurer la population locale encore sous les chocs. Par ailleurs, l'armée appelle les autorités civiles du territoire de Fizi et des secteurs de Mutambala et de Tanganyika de se rapprocher de la population Bibokoboko et les sensibiliser pour la cohésion sociale. Depuis Bibokoboko, Fiston Ngoma Mayaba, la radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Nous apprenons que dans le territoire de Beni, des mineurs et des femmes déplacées sont abusées sexuellement. Cela se passe dans la cité de Kasindi, à la frontière avec l'Ouganda, et dans la ville de Beni. Le conseil urbain de la jeunesse qui dénonce ces abus demande aux autorités de procéder à la fermeture de toutes les maisons de passe où des jeunes filles sont contraintes de se prostituer. Charline Massika, conseillère à cette structure, réclame également des poursuites judiciaires contre les responsables de ces établissements. Elle est au micro de Marc Marofimbo.
C'est avec amertume que nous avons appris cette situation et ça nous fait très mal. Nous devons faire quelque chose pour aider toutes ces femmes et filles mineures, puisque ce sont des personnes d'abord qui sont de vulnérables. Et quand elles se réfugient quelque part, elles subissent encore des actes d'abus et exploitation sexuelle. C'est vraiment très mal. Je peux donner une recommandation à notre gouvernement de bien pouvoir faire quelque chose. Et surtout, comme nombreux sont exploités dans des maisons de tolérance, communément appelées Kijé, je recommande assez que les services de sécurité fassent la traque de toutes ces maisons de tolérance et que tous ces tenanciers et tenancières de ces maisons puissent subir la rigueur de la loi. Mais aussi, je donne la recommandation à tous les membres de la communauté de bien pouvoir ne pas être des acteurs de cette situation-là. J'appelle tous les membres de la communauté de bien pouvoir avoir un air sur toutes ces filles-là et de bien voir dans quelle mesure du possible nous pouvons parvenir à les aider.
Par ailleurs, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï dénonce les violences sexuelles et celles basées sur le genre au Kasaï central. Une trentaine de cas ont été enregistrés pour le seul mois d'octobre, alerte la coordonnatrice de cette structure. Dans son rapport, Nathalie Kambala parle notamment d'une fillette de 3 ans violée à Dimbelenge et se trouvant dans un état critique, et une autre femme de 50 ans qui a subi le même sort à Demba. S'opposant aux arrangements à l'amiable, elle appelle la justice à se saisir de toutes ces situations pour que les bourreaux répondent de leurs actes. Nathalie Kambala est au micro de François Kadima.
Nous alertons vraiment, nous alertons les agents de sécurité et aussi la justice. C'est la justice qui peut nous aider à réduire tous ces cas ici. Par conséquent, j'estime de ma part que le temps est révolu. La justice doit jouer son rôle, le rôle de décourager tous ces malfaits. Nous ne pouvons pas se sentir toujours en insécurité. Les femmes, les filles, que l'autorité provinciale trouve le. C'est pas intéressant de se contredire de cas de violence sexuelle pendant que nos populations ne sont pas informées, ils sont en train d'être cochonnés. Nous demandons qu'on puisse réprimander tous les commissariats qui continuent à jouer le rôle de la justice et qui continuent à privilégier les arrangements à l'amiable et rançonner la population. Et nous demandons aux femmes aussi, lorsqu'il y a des cas de violence sexuelle, il y a des structures appropriées où vous pouvez amener vos cas.
Direction la province du Tanganyika. Un concours des consommateurs d'alcool frélaté tourne au pire. Cela s'est passé à Kongolo, à 390 km au nord de Kalemie. Un jeune homme de plus de 30 ans est décédé après avoir bu sans arrêt 4 bouteilles d'alcool frélaté. L'organisateur du dit concours est en fuite. Que s'est-il passé réellement? François-Xavier Mibé.
Le drame est survenu à la fin de la quatrième bouteille d'alcool frélaté appelée whisky sur place à Kongolo. Le concours a consisté à boire dans 10 minutes et sans arrêt 4 bouteilles d'alcool mises en compétition. L'organisateur du jeu a mis sur la table une somme de 100 000 francs congolais prête à être remise aux gagnants. Un membre de famille témoigne. Il a bu les 4 bouteilles de whisky dans ces 10 minutes et s'est écroulé sur le champ. J'ai pris le jeune homme pour le conduire à l'hôpital. Trop tard, il vient de laisser une veuve et un enfant. Je ne sais pas si l'organisateur détient des documents nécessaires qui autorisent ce genre de compétition qui aboutissent au drame. L'autorité en place parle d'un crime. L'administrateur de territoire assistant en charge des finances, Kasongo Bakase Baraka.
Je demande à la police et au service de sécurité, l'ANEF, si on est dans les territoires, au chef lié du territoire, partout là, ils vont rencontrer les gens en train de faire la compétition de la boisson, qu'ils soient mis aux arrêts. J'interdis ces mouvements à partir d'aujourd'hui.
Nous venons d'apprendre que la police vient ce jour même de mettre la main sur l'organisateur de la compétition au village de Mbulula, à 64 km au nord-est de Kongolo. Kalemi, François Djabemibe, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, procès Tchibeya. La haute cour militaire a organisé une audience de reconstitution hier sur le site de Mitendi à Mongafula, supposé être le lieu où aurait été enterré Fidèle Bazana, ancien chauffeur de Floribert Tchibeya de la Voix des Sans Voix, tous deux assassinés le 1er juin 2010 dans les installations de la police nationale congolaise. Il était question de confronter les prévenus et renseignants à leur déposition faite sur l'enterrement de Bazana, dont le corps reste introuvable. Après une longue marche de près de 3 km, le site a été difficilement identifié, mais déjà pollué. Jeff Ngoy.
Une promenade sous un soleil de plomb sur les 3 concessions appartenant au général Zelo Katanga. Celui-ci n'en reconnaît qu'une seule. Et à 100 mètres de là, Jacques Mugabo et Doudou Ilunga affirment avoir enfoui le corps de Bazana. Le sol de Mitendi est encore loin de révéler ses secrets. Les habitants environnants confirment la présence jadis de quelques militaires en train de déterrer quelque chose. Maître Richard Bondo, conseil des parties civiles.
Nous avons réussi à arriver dans la parcelle bien indiqué. C'est la parcelle de M. Zelo Katanga Diadidia et cette parcelle a été visitée également par la MONUSCO, accompagnée de Mugabo qui confirme qu'il a été dans cette parcelle.
Le président de la société civile de la RDC, Christopher Ngoy, réagit.
Aujourd'hui, ils sont devenus peu parlants. On dirait...
Ça fait plus de 10 ans, 11 ans, on ne peut plus se retrouver.
Écoutez, ça fait plus de 10 ans, plus de 11 ans, mais nous sommes sur le site, c'est pourquoi on cherche toujours la vérité. On peut se rappeler, se souvenir. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons des gens, au lieu de parler de parcelles, ils nous parlent de sites. Donc ce n'est plus précis.
Selon le président de la Cour, on n'est pas venu pour une fouille du sol, mais vérifier les affirmations et contradictions croisées des accusés.
Nous poursuivons la série des reportages relatifs au processus électoral. Le seuil d'éligibilité divise sans doute la classe politique congolaise. Introduit dans la loi électorale de 2018, le seuil de représentativité a été fixé à 3% pour les élections provinciales et 1% pour les nationales. Si le seuil a l'avantage de réduire le nombre des candidatures, il présente certains inconvénients, notamment au niveau de l'attribution des sièges aux candidats mal élus mais inscrits sur la liste des partis puissants. Si le seuil est maintenu ou revu à la hausse dans la prochaine loi électorale, les candidatures indépendantes n'auront plus beaucoup de chances pour être élues, alors que les grands partis et regroupements politiques se verront réconfortés. Explication Michel Kifindangoy.
Conformément à la loi électorale de 2006 et celle révisée en 2011, les sièges étaient attribués suivant le système majoritaire et la règle de la proportionnelle du plus fort reste. En 2018, la loi électorale a introduit le seuil national de 1% et provincial de 3%. Il s'agit en effet du nombre minimal de voix que chaque parti et regroupement politique doit réaliser afin de mériter un siège. Très concrètement, à l'issue du vote, la CENI fait la sommation de tous les votants de la République et applique 1% sur le nombre des suffrages valablement exprimés. Par exemple, s'il y a 20 millions de votants sur toute la République, ne participent à l'attribution des sièges de l'Assemblée nationale que les candidats indépendants et les listes des partis et regroupements politiques qui ont atteint un minimum de 200 000 voix. Dans cette logique, un candidat peut être le mieux élu de sa circonscription électorale, mais ne sera pas déclaré élu si son parti n'a pas atteint le seuil. Ceci aura pour avantage de réduire le nombre de candidatures, de simplifier le vote, mais aussi de faciliter les alliances politiques pour la formation du gouvernement. Mais le peuple risque de ne pas se retrouver dans certains élus.
Actualité internationale. Avant de passer à l'actualité internationale, sachez que l'Assemblée nationale va enfin débuter aujourd'hui l'examen et le vote du projet de loi portant reddition des comptes. L'adoption de ce texte va ouvrir la voie à l'examen du projet du budget 2022 conformément à l'article 87 de la loi relative aux finances publiques, alors que le Parlement a déjà enregistré plus de 55 jours de retard dans l'examen du budget. En vertu de l'article 83 de la loi, l'examen de la loi portant reddition des comptes prévu le mardi a été renvoyé à aujourd'hui sans qu'aucune raison n'est soit avancée. Notez qu'au cours de la même plénière ce jeudi, l'Assemblée nationale va aussi examiner et voter le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021. Rendons-nous à présent en dehors de nos frontières. Nous sommes en Éthiopie. Des combattants tigréens auraient violé, battu et volé plusieurs femmes en août dernier dans la région de l'Amara, touchée ces derniers mois par la guerre opposant rebelles et forces gouvernementales dans le nord de l'Éthiopie. Ceci ressort d'une enquête de l'ONG Amnesty International. Cette dernière dit avoir recueilli les témoignages de 16 femmes qui disent avoir été victimes d'exactions de la part des combattants du Front de libération du peuple du Tigré à leur passage dans la localité Amara entre le 12 et le 21 août. Elles les ont identifiées comme des combattants tigréens en raison de leur accent et des insultes ethniques qu'ils proféraient, certains affirmant également être membres de TPLF.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu. Selon l'Institut d'Aler, il existe encore des groupes armés et milices qui continuent à recruter et utiliser les enfants comme soldats, ce qui constitue un défi pour l'armée engagée dans les opérations pour mettre un terme à l'activisme de tous ces groupes négatifs. L'Institut d'Aler travaille justement sur la prévention du recrutement et de l'utilisation des enfants par les forces et groupes armés. Le responsable de cet institut est l'invité de ce journal, Arsène Mukendi, s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Arsène Mukendi, bonjour.
Bonjour madame.
C'est quoi les défis de l'armée régulière qui se retrouve dans les opérations face aux enfants comme combattants d'un groupe rebelle?
Les défis des forces armées de la République démocratique du Congo sont majeurs. Mais en particulier, aujourd'hui, les FARDC rencontrent les groupes armés ou soit des milices qui recrutent et utilisent les enfants comme soldats. Dans la plupart des cas, ces enfants peuvent être utilisés comme combattants, des fois comme boucliers humains. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont bien formées, une armée professionnelle, engagées des groupes armés qui ont au sein de leurs troupes des enfants soldats, causent un problème très très majeur. Et lorsque les troupes ne sont pas bien préparées à l'encontre de ces groupes armés qui ont des enfants soldats, ça pose aussi un autre problème sur la protection de l'enfant.
C'est quoi l'attitude maintenant de l'armée qui se retrouve en opération face à des combattants parmi lesquels des enfants?
Ça pose un grand dilemme dans la mesure où aujourd'hui nous recommandons aux forces armées que dans leur planification qu'ils puissent avoir des directives claires qui concernent les zones d'opération où les enfants soldats sont utilisés. Les forces armées régulières, avant d'aller dans une zone d'opération, il y a un mandat clair qu'il est leur donné. Il y a aussi des règles d'engagement qui sont aussi données à nos troupes. Il y a aussi des ordres opérationnels qui sont donnés aussi à nos troupes lorsqu'ils sont sur le champ, le théâtre d'opération. Alors, le dilemme se pose dans la mesure où, lorsque les troupes armées sont face aux enfants soldats, tuer un enfant soldat, il y a un remords. Oui, c'est vrai. Ils portent des armes avec eux, mais c'est des enfants d'abord, avant toute chose. Alors cela crée un remords. Dans l'autre sens, un militaire bien formé, se faire tuer par un enfant, ça cause aussi la honte ou soit les désarrois au sein de vos forces. Alors maintenant, nous essayons un peu de voir aussi comment est-ce que les troupes peuvent mieux interagir avec les enfants soldats lorsqu'ils sont sur les champs de bataille.
Alors, notre armée n'est plus sur la liste noire des forces qui recrutent et utilisent les enfants, c'est depuis 2017. Maintenant, quel mécanisme pour en finir avec cette pratique qui continue à détruire l'enfance des mineurs utilisés dans les groupes armés et ainsi faciliter le travail de l'armée dans les opérations?
Exactement, les FARDC ne font plus partie de la liste noire depuis 2017 et aujourd'hui, au sein des FARDC, il y a des lois, des directives claires qui ont été données, même sur la vérification de l'âge. Avant d'avoir des recrues dans l'armée, on s'assure que toutes les dispositions ont été prises en compte, vérifier l'âge, que ce soit d'une manière formelle, le certificat de naissance, des baptêmes, carte d'électeur, je ne sais pas quoi d'autre. Donc ça, c'est une manière formelle de vérifier si la personne n'est pas en dessous des 18 ans. Et il y a aussi des manières informelles, parce qu'il y a des coins reculés de la République où peut-être les enfants, ils n'ont pas peut-être les cartes de naissance. Alors comment tu fais, n'est-ce pas? Donc il y a une manière informelle là où on pose des questions d'abord aux parents qui vont attester que oui, la personne a plus de 18 ans, n'est-ce pas? Donc il y a toujours ces mécanismes que nous avons sur place pour se rassurer que les nouveaux recrues ont déjà atteint l'âge majeur.
Comment faire pour éliminer aussi les recrutements des enfants soldats au sein des groupes
armés? Exactement. Et c'est ça maintenant le grand travail que nous avons présentement. Récemment, nous avions eu un atelier où nous avons associé les journalistes. Parce que nous pensons que non, le quatrième pouvoir a aussi ses devoirs de sensibiliser même les groupes armés d'arrêter d'utiliser les enfants comme soldats. Et les FARDC aussi, lorsqu'ils sont dans les zones d'opération, on les encourage toujours de se rassurer que toutes les considérations ont été prises en compte lorsqu'ils interagissent avec ces enfants soldats. Donc là, c'est dans les zones d'opération. Dans la planification déjà, nous encourageons aussi les forces armées de cartographier les endroits où les enfants sont vulnérables au recrutement. Ça, c'est un travail qui s'est fait présentement par les FARDC. Ils doivent identifier ces endroits et ils doivent aussi se rassurer qu'il y a une protection ou soit une sécurité accrue dans ces endroits où les enfants peuvent être vulnérables au recrutement.
Monsieur Arsène Mukendi Chidimou, je rappelle que vous êtes responsable en RDC de l'Institut d'Alair. Merci.
Je vous remercie, madame.
Et par ici, nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.